SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Tunganamé pour vous accompagner ce dimanche 16 juin. Au sommaire de cette édition, dans notre rubrique personnelle de la semaine, on reviendra sur la vie de Françoise Hardy, une grande dame de la chanson française qui nous a quittés cette semaine. Nous parlerons de sport également, notamment du parcours des Usain Bolt aux Jeux Olympiques, ce à quelques semaines des JO de Paris. Et toujours en marge de ces JO, nous avons un entretien avec Céline Vineau, une jeune athlète francophone qui a été sélectionnée pour représenter l'Australie aux prochains Jeux Paralympiques. Nous avons également une conversation avec Kate Constantine, une artiste aborigène dont les œuvres seront exposées à Paris en marge des JO. Et sans plus tarder, Valentine Saboureau avec un portrait de Françoise Hardy au micro de Jean-Noël Ducasse.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aujourd'hui, avec Valentine Saboureau, nous allons parler d'une grande dame de la chanson française qui chantait les tourments de l'amour avec une tendre gravité. Icône nationale au succès international, Françoise Hardy s'est éteinte mardi dernier. Elle nous laisse tous un peu orphelins.
Bonjour, bonjour à tous. Un peu moins d'un an après le décès de Jane Birkin, c'est donc une autre icône de la chanson française qui vient de nous quitter. Françoise Hardy, sylphide aux yeux de biche, icône de mode aussi réservée qu'exposée, est décédée à l'âge de 80 ans le 11 juin dernier. C'est son fils Thomas Dutronc qui a sobrement annoncé la nouvelle sur Facebook. Trois mots, maman est partie. La chanteuse souffrait depuis plusieurs années d'un cancer au larynx. Elle militait depuis longtemps pour la légalisation de l'euthanasie.
On peut dire qu'elle nous a accompagnés pendant des décennies.
Absolument, sa silhouette et ses chansons nous sont incroyablement familières. Il faut dire qu'elle a commencé sa carrière très fort et très jeune, puisqu'elle a 18 ans lorsqu'elle enregistre son premier 45 tours. C'était en 1962 et il comprend ce titre mélancolique qu'elle a écrit et composé. Il lui restera longtemps collé à la peau, mais vous allez tout de suite le reconnaître.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du...
Alors le succès de Tous les garçons et les filles la propulse dans la lumière, d'autant qu'elle tape dans l'œil de photographes et de cinéastes. Elle enchaîne les albums, elle écrit, compose, joue de la guitare et chante, ce qui est très atypique à l'époque où les reprises en français de tubes anglais sont légion. Cela ne l'empêche évidemment pas de collaborer avec de nombreux artistes, Michel Berger avec Message personnel, Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg, Comment te dire adieu, et plus tard Étienne Dao, Benjamin Biolay ou Alain Bachung entre autres. En tout, elle sort 28 albums qui s'étalent sur plus de 5 décennies. Le dernier, Personne d'autre, est sorti en 2018. Il a été majoritairement écrit par Françoise Hardy, mais Yael Naïma ou la Grande Sophie y ont aussi contribué.
Françoise Hardy est évidemment indissociable de Jacques Dutronc.
Alors Françoise Hardy a vécu plusieurs années avec le photographe Jean-Marie Perrier, avec qui elle est restée très amie, mais celui qu'elle a aimé toute sa vie, et ce n'est un secret pour personne, c'est le chanteur Jacques Dutronc, avec qui elle vit une histoire tourmentée et dont elle ne divorcera jamais malgré leur séparation. Je la cite, « Le sentiment amoureux est un moteur extraordinaire, même s'il faut le payer de tourments perpétuels, sans lesquels je n'aurais d'ailleurs écrit aucun texte de chanson. » Les affres de l'amour, elle les a abordées sans détour et dans toute sa discographie, il suffit d'écouter « Il y a eu des nuits » en vous aimant bien, « À quoi ça sert ?» ou « L'amour fou » pour comprendre tout ce qui la traverse. Extrait de « Voilà », chanson écrite pour Jacques Dutronc, ce qu'il a lui-même admis plus tard.
Voilà, je m'en retourne aux autres qui m'aiment et que je n'aime pas. C'est comme ça. Et toi, va retrouver cet autre. Tu l'aimes ou c'est ce que tu crois. C'est comme ça. Voilà.
Elle était timide et peu sûre d'elle. Pourtant, elle a suscité de grandes passions.
Oui, ben déjà, il faut savoir qu'elle a été très admirée à l'international. Pour sa musique, évidemment, mais pas que. David Bowie, Mick Jagger, pour qui elle était un idéal féminin, ou même Bob Dylan, était notoirement amoureux d'elle. Voici une anecdote rapportée à Thierry Ardisson en 2004. Françoise Hardy y revient sur un concert de Bob Dylan auquel elle a assisté lorsqu'elle était jeune.
Et puis là, grosse déception parce que Bob Dylan n'était pas au meilleur de sa forme. Et vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a déçu l'attente du public, car c'était pas très bon, la manière dont il a chanté, dont il a joué de la guitare, etc. Et donc, à l'entracte, il ne revenait pas puisqu'il faisait les deux parties. Et quelqu'un est venu me demander d'aller dans sa loge, parce que sinon, il ne remontait pas sur scène.
Voilà.
Il faut aussi reconnaître qu'au-delà de son talent si singulier, elle était très belle. Des cheveux châtains raides, portés au naturel, une longue frange rabattue sur le côté et une silhouette fine, habillée par les plus grands couturiers. On se rappelle notamment cette mini-robe signée Paco Rabanne, 38 kilos d'élégance, composée de carrés plaqués or et incrustés de diamants. Elle portait aussi les créations d'André Courrèges, dont elle était la muse, ou d'Yves Saint-Laurent. Côté accessoires, on a tous en tête les casquettes qu'elle affectionnait, dont une rouge ou ses grosses lunettes de soleil.
Outre la musique, elle avait d'autres passions.
Oui, on le sait moins, mais elle s'est passionnée pour l'astrologie dès les années 1970, au point de se former très sérieusement, d'écrire plusieurs livres et d'animer des émissions de radio sur le sujet. Elle a même fait les thèmes astro de personnalité. On l'écoute ici parler avec Serge Gainsbourg.
Serge, vous êtes né un 2 avril, je ne dirai pas quelle année.
Moi,
Bélier,
je dirais 28.
Bon, alors on va parler un petit peu du Bélier. Donc vous savez, je crois que ce signe porte à suivre ses impulsions sans trop se soucier finalement des dégâts que ça risque de provoquer. C'est un signe qui...
C'est juste.
C'est un signe qui porte également à manquer de frein, à manquer de retenue. Et je voulais savoir s'il vous était arrivé, bien que le Bélier prédispose également à ne pas trop revenir en arrière, à regretter certaines irretenues que vous avez pu avoir.
Si, bien sûr, j'ai des regrets. Mais ce sont des flashbacks, des regrets.
Elle a aussi eu une petite carrière d'actrice. Elle a notamment endossé le rôle principal aux côtés de Samy Frey dans Une balle au cœur de Jean-Daniel Paulet. Elle a également publié des livres, dont sa fameuse biographie Le désespoir des singes et autres bagatelles, que vous pouvez même vous procurer en anglais. Enfin, elle a peut-être été avant tout une mère, puisqu'elle était extrêmement proche de son fils Thomas, musicien comme elle, à qui elle disait de voir ses plus grands moments de bonheur. En hommage à cette relation fusionnelle, on va d'ailleurs terminer par une chanson qu'elle a écrite pour lui, extrait de Tant de belles choses.
s'il me faut lâcher ta main sans pouvoir te dire à demain.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
C'était Tea Paradis, une chanson des frères Timal. Nous allons à présent passer à une pause, mais restez à l'écoute. Après la pause, on retrouve Hugo Moissonnier de RFI et ses invités qui discutent de l'actualité sportive en marge des JO de Paris. Ils reviennent notamment sur le parcours olympique de Usain Bolt.
La Madeleine de prouesse du samedi à quelques semaines des Jeux de Paris. Un amateur, un homme éclairé. L'équipe des sports de RFI partage ses souvenirs olympiques. Aujourd'hui, Sofiane Amazian donc, qui va nous parler d'un illustre inconnu. Un ancien sprinteur jamaïcain qui a su enflammer les pistes en engloutissant tout sur son passage. Telle la foudre. Qui est passé trois fois, 2008, 2012, 2016, trois Olympiades, trois razzias pour l'homme le plus rapide de l'histoire. Très connu, évidemment, je plaisantais, le Jamaïcain Usain Bolt.
Ça sera le premier départ qui sera le bon. Usain Bolt quitte en action avec Thompson qui est parti très vite. Usain Bolt qui fait l'effort. Usain Bolt, champion olympique, attention au chrono. Il a levé les mains. 58, nouveau record du monde.
9. Seconde, 69 centièmes pour faire une entrée fracassante dans l'histoire. Je vais quand même vous resituer le contexte si vous n'étiez pas devant votre télé. En 2008, on est à Pékin, en Chine, Jeux Olympiques de 2008, finale du 100 mètres. Les conditions climatiques sont idéales pour briller sur la piste. Un jeune homme de 21 ans détonne par son allure 1m95 et puis par sa décontraction, Usain Bolt, était jugé trop grand, trop provocateur. Attendez la suite, un départ canon. Son buste se relève, la machine se met en route. Il distance largement ses adversaires jusqu'à célébrer face aux caméras avant même de franchir la ligne d'arrivée. On n'avait jamais vu ça, l'avènement d'une icône des années 2000 en direct.
Pour moi, Pékin devait être un moment inoubliable pour tout le monde. Mes premières médailles olympiques à Pékin. Je n'avais jamais remporté ce genre de médaille auparavant, c'était invraisemblable. J'étais vraiment impatient de disputer mes premiers Jeux olympiques, mais gagner en battant des records, c'était beau.
Et 9,69, record olympique en poche. Ensuite, même des contractions sur le 200 mètres pour s'emparer de l'or en 19 secondes 30. Nouveau record également. Puis le relais 4x100 avec la Jamaïque en 37 secondes 10 centièmes. C'est ce qu'on appelle un triplé doré.
2008, c'est l'avènement. 2012, c'est la consécration.
À Londres, Hugo Bolt, cette fois, eh bien, il est attendu. Des petits nouveaux veulent lui faire de l'ombre, notamment son compatriote Yoann Blake. Mais la recette Bolt fonctionne toujours et c'est même affiné, toujours la même décontraction, les mêmes facéties. Bolt s'empare d'abord de l'or sur 200 mètres en 19 secondes 32. Même résultat sur le 4x100 jamaïcain, médaille d'or. Le 100 mètres, un modèle du genre Hugo dans un stade de Wembley déchaîné. Bolt n'est pas au mieux au départ, mais dégoûte ses adversaires dès lors que ses longues jambes produisent l'effort. L'Américain Justin Gatlin et Yoann Blake sont largement battus. Bolt signe un nouveau record olympique, 9 secondes 63, deuxième meilleure performance de tous les temps, derrière le fameux 9 secondes 58 réalisé par Usain Bolt lors des Mondiaux de Berlin, c'était en 2009.
Je suis venu ici pour construire ma légende, mon héritage. J'ai bien débuté maintenant. Il faut que je continue, que je reste concentré tout en travaillant dur. Le public est incroyable. Je savais qu'il allait être bruyant, mais quand je l'entendais crier mon nom, c'est juste incroyable.
À Londres, au stade olympique de Londres et pas à Wembley, Bolt qui pulvérise tous les records. Seul athlète à remporter les 100, le 100 et le 200 lors des deux Jeux olympiques consécutifs. Seul athlète à remporter 6 médailles d'or dans des épreuves de sprint.
Vous avez bien fait de vous rattraper, vous auriez énervé Salim Bongali de Radio Foot, grand fan de West Ham qui occupe désormais le stade olympique. On était en 2012, 4 ans plus tard, Rio. Usain Bolt a 30 ans, les rumeurs de retraite planent autour du sprinter jamaïcain, plus en danger que jamais sur ces distances fétiches.
Parce que la concurrence, Hugo, est rude, elle est incarnée par l'américain Justin Gatlin, là, qui est revenu à un très haut niveau depuis sa suspension pour dopage, et la jeune pépite canadienne André De Grasse. Bolt, lui, est en mission opération triple-triple, remporter 3 courses lors de 3 Jeux olympiques de suite. On peut gagner une médaille d'or, Hugo, mais pas 9, vous le savez, on peut gagner, allez, 2 médailles d'or, mais pas 9.
Oh bah je suis un spécialiste, oui, je peux vous le dire.
Vous, Hugo, vous pouvez peut-être gagner 3 médailles d'or, mais pas 9. Bah, en fait, si. Bolt le peut, avec certes moins d'avance sur ses adversaires, avec des chronos moins fascinants. Le Jamaïcain domine le 100, le 200, porte son pays sur le relais 4x100. Écoutez Usain Bolt heureux au micro d'un certain Christophe Diremzian, c'était il y a 8 ans.
Je suis heureux d'être ici et d'avoir fait ce que je devais faire. C'est bon de franchir encore la ligne devant les autres. On se sent brillant. C'est un super sentiment et je suis content de moi. Après les demi-finales, je savais que j'allais encore gagner. Je devais juste jaillir et courir. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis fier de moi et c'est un sentiment merveilleux. C'est pour ça que je suis venu, être le meilleur possible et faire ce pour quoi je suis le plus grand. Et c'est exactement ce que je fais.
Usain Bolt, le plus grand, au sommet de l'Olympicone générationnel, véritable vent de fraîcheur à l'ère du sport, souvent aseptisé. J'ai grandi, moi, en regardant Bolt courir. Il m'a accompagné tout au long de mon adolescence. Finalement, petite ombre au tableau ou pas, le Jamaïcain n'arbore finalement que 8 médailles d'or olympiques. Celle du relais 4x100 vainqueur à Pékin lui a été retirée par le CIO car un de ses coéquipiers de l'époque a été disqualifié pour dopage. Mais est-ce que cela change quelque chose, Hugo ? Non, je pense que non.
Non, mais ce qui change la donne, c'est pour nos jeunes auditeurs. Vous avez rappelé qui était Usain Bolt. Ça commence à remonter, ces derniers exploits, en tout cas pour les plus jeunes d'entre nous. Et l'olympisme en général, d'une certaine manière, en tout cas de l'athlétisme, n'ont pas retrouvé Karim Baldé, une telle star. On parle du Mohamed Ali de l'athlétisme, ou du Léo Messi, ou du Cristiano Ronaldo de l'athlétisme, et voire des Jeux Olympiques.
Oui, c'était une icône, surtout parce qu'il a pu faire 3 Olympiades avec succès. Et on n'a pas retrouvé, c'est impossible de recréer un Usain Bolt. Peut-être que ça arrivera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais pour l'instant, l'athlétisme mondial est orpheline de quelqu'un comme Usain Bolt qui incarnait bien au-delà du sport et bien au-delà des amateurs de sport dans le monde entier. On pouvait dire qui était Usain Bolt.
Mais oui, mais les légendes ont une fin. Michael Jordan sur les parquets, Léo Messi sur les terrains de football, Bolt sur la piste d'athlétisme ou même les Rafael Nadal du côté de Roland Garros. Quelle transition, mesdames et messieurs.
C'était Malik Judy qui nous interprétait Vivant. Il est temps de passer à une autre pause, mais restez à l'écoute. Après la pause, on découvre Kate Constantine, une artiste australienne dont les œuvres seront exposées à Paris en marge des JO.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
This year's Milan Design Week, Technogym celebrates its 40 years with the special exhibition Designed to Move, featuring 40 unique Technogym benches, one of the brand's iconic home wellness products designed by 40 different international designers and artists from all over the world. Representing Australia is Indigenous artist Kate Constantine, a proud Gadigal woman of the Eora Nation who is reimagining the traditions of her people's Dutch painters and providing a modern narrative for all to better understand First Nations people as part of the fabric of Australia. And I'm glad to say Kate is on the line joining us to give us some insights into her participation in this exhibition representing Australia. Kate,
Thanks for joining us and welcome to Night TV Radio.
Oh, good morning. Thank you for having me.
How is Milan so far?
I didn't actually get to go to Milan this time. I'm here in sunny Byron Bay in my studio working away on an exhibition actually for Paris at the end of the year. But I have been getting many video calls and lots of photos and tagged in a lot of social media posts from people that I don't know in Milan.
Okay, you know, I was under the impression that you will be waking you up or calling in the middle of the night, but glad you're on the same, you know, in the same timeline almost, so I'm not waking you up. Or excellent, excellent. Now, let's go straight into this story of you representing Australia. How does it feel being, first of all, selected to represent Australia on the international stage?
Look, it's pretty wild. I'm very lucky that I do receive, you know, commissions to do some weird and wonderful things, both in Australia and overseas. But this is definitely one that was both an awesome experience, but a challenge. As a dot painter, I'm a large format contemporary Aboriginal dot painter, so I'm used to seeing things on quite a flat surface. To then receive this awesome bench in my regional workshop and go, wow, how am I going to do this? was a real challenge, but something that I really enjoyed. I was a little bit frightened. The list of artists were absolutely incredible. And I did think a couple of times, why did they pick me? but yeah, I was really, really happy to collaborate on the project. You know, looking at them, all of them together, like, they're spectacular. They're just so beautiful.
Now, I saw them and I wouldn't think of them as objects to use for anything, but just decoration, you know. When I saw the design, I thought, well, this would just be sitting somewhere where I would just be admiring it, not do some work out on it or anything.
No. There was one that just took my fancy that was amazing. One of the artists had created like a neon light installation inside the bench. Completely like impractical for working on, but I just love other people's creativity as well. It was such a such an honor, I suppose, and a privilege to be, you know, a part of a group of people that are that creative from all over the world, that, you know, we all tackled the project really differently. And I think that shows, you know, how broad and beautiful the international art scene is. And such a privilege being a black fella, such a privilege being an Aboriginal woman, chosen to represent Australia. You know, I was the only First Nations person out of all those people chosen to do a work, and that our work stacks up in that environment is, you know, something that makes me really proud.
No, it's unique. And can you tell us about the significance of dot painting in your culture and how you've incorporated that tradition into your design for the Technogym bench?
So dot painting, it can be a bit of a controversial topic about who should and shouldn't dot paint in terms of Aboriginal people. Dot painting has always been very much seen as coming from the Central Desert area, and it's, you know, home is an homage, if you like, is definitely there. I've been doing like quite a lot of research over the last sort of 7-8 years into what the styles of painting down the eastern seaboard, but particularly in Sydney, as I'm a Gadigal woman, what our styles would have been, because a lot of those things have been lost in that transition from our beautiful place as it was to, you know, colonial times. And only recently I've come across a couple of amazing documents that actually outline all of, or most of, the rock engravings and carvings from all over the Sydney Basin. A lot of those are actually dot painted, which lends me to marry that up also with research that I've done on adornment, so body adornment of mainly the people of the Eora Nation in the Sydney Basin area, and with a specific focus on my people, the Gadigal people. We also used a heap of dots. So both women and men for different ceremonies used quite a lot of dots and line work to paint up our bodies. So to say it's just a Central Desert practice, I think in now, our modern times, where we can actually kind of debunk that and say that, yes, there's certainly a huge amount of Central Desert painters that use it. But I think, you know, there's definitely now, for me, enough evidence that across the eastern seaboard, we were using line and dot quite a lot also. That said, I suppose my dot painting is really different. It's not traditional in any way, shape or form, but the dots themselves are. But the way I like to think of it is as an honouring, you know, like an homage to those traditional dot painters of our ancestry, and use it to imagine new contemporary and modern ways to use those dots.
Yeah.
And what stories to tell using them. That's the basis of my practice, is, you know, that honouring of, you know, past, present, and also seeing the future for our art. Nothing in life stays the same, which is probably both a blessing and a curse. Everything has to evolve. And just like modern contemporary art that isn't Aboriginal, you know, evolves over the centuries and with different movements of painters and artists, you know, I suppose my version or my brand of dot painting is a super contemporary one.
How does your design for the bench aim to educate and raise awareness about First Nations people and culture in Australia?
It's very difficult in one painting to answer all of the questions that need to be answered. But for me, I saw it as an opportunity to go really bright so that the bench was seen. It took up space, if you like, in people's minds, just like that amazing neon light sculpture I was talking about earlier, you know, something that drew attention. So I went with a series of mine that I do called the Ken Doan Loves Collection. And the reason it's called that is because I adore Ken Doan. He's not Aboriginal. He's an amazing Australian artist. He's well into his 80s. He had a huge successful career in the 1980s, but then also, again, you know, a big resurgence currently at the moment. But the reason I love him so much is he has pretty much predominantly only ever painted Sydney, which is, you know, my home country, Gadigal land. And he's painted Sydney in such a way that he really put us on the map. If you have a think back to, you know, I was an 80s child, I'm in my 40s. You think back to, you know, the 80s, everybody had a Ken Doan bedspread with the harbour on it, or a beach towel, or a T-shirt that said, you know, Australia, or Sydney, Australia. And for me, I think that that's a really beautiful thing, that a man or a human being, you know, if we strip it back to its essence, a human being had such a huge connection to a place that it was the reverence of his artwork. And his colour moniker is huge. Like, he's so bright and bold, and he really does show off, you know, my place, my country, Sydney, in the most beautiful way. So, yes, I went with a Ken Doan Love series piece that I painted, and then I used all of the beautiful colours from our harbour and the topography of the land. Those paintings are always based like an aerial view looking from above, and they're the topography of my country, of my place, of my special places within my country. And that's what I wanted to share with the world. I wanted to share our beautiful place, the physicality of it, but also like the dreaming of it, the imagining of it, what it evokes in people's minds.
Yeah. So you just cover dot paintings, but you really, at the same time, really celebrate the Gadigal people of the Eora Nation.
Yeah. And I was like, you know, I'm obviously biased, but because I'm a Gadigal woman, but seriously, we have like the best land, the best country, you know, in the world. Like, look at that beautiful harbour glistening in the sunlight, those, you know, beautiful rock escarpments. We've got beautiful beaches. We are so spoilt. And I think to celebrate that, we as a collective, we, like all humans, you know, and Sydney-siders, I think we forget. We get very stuck in our, you know, in our traffic, and, you know, you only see, you know, your route to and from work, or to and from your apartment, or to and from your house. I think we forget to really stop and enjoy country in its true and proper sense. That I love to paint that. I love to paint the movement and the stillness and the joy of looking at something really beautiful and knowing that you love it.
Yeah, and Sydney is a really beautiful place with its skyscape and a huge variety of landscapes and so on. Really, there's everything for... It's not just the eyes, the sounds and the feels. A really very, very diverse place to explore and admire. And going back to your art practice, how can collaboration between First Nations artists and global brands like Techno, Jim, help to amplify Indigenous voices and narratives?
The way I like to maybe think about it is the more space that we as First Nations people can take up, whether that's in art, whether that's in music, whether that's in sport, at an exemplary level, the more opportunity we have to be visible and the more opportunity we have to tell our stories from our own mouths without somebody else being our intermediary, without the media reinterpreting it, or without somebody, you know, a politician putting their spin on it. I think it's such an art for me, obviously, as an artist, is such an important visibility marker for us, for Aboriginal people. You know, Aboriginal people, we're not all the same. We didn't all grow up in the same way. Some people grew up in a really modern, urban place. Other people grew up, you know, in the bush. Some people have grown up in the desert. Other people have got completely different backgrounds. And I think for me, you know, the more Aboriginal artists that are out telling their unique version of their own unique story, the more opportunity we have to be on this global stage having our voice heard. I think for a really long time, there's only been, not only, but I think that there's been a really big push towards, you know, art centre artists, or, you know, what's considered traditional, and in inverted commas, Central Desert painters, and they are amazing. Like, I own some of those beautiful pieces of work and work with some of those people, you know, out in Alice and at Yendamu and places like that. But I think there's also other beautiful stories within Aboriginal art. You know, there's beautiful stories coming out of, you know, Palawa country down in Tasmania that is totally different to the Central Desert stuff. There's, you know, amazing, beautiful black and white markings that come out of, you know, the Torres Strait and the Kiwi Islands, the eastern seaboard, you know, where I am, you know, all the way sort of from Brisbane all the way down to like Yuin country in, you know, Wollongong and Nowra, you know, having this huge amplification of emerging Aboriginal voices. And, you know, Victoria Nam in Melbourne has got, you know, some of the most incredible Aboriginal street artists and more graphic style artists. You know, there's a lot of us. So to think that there's only one brand of artwork that we go with is a real misnomer. Just like in the Western construct of art, you know, not everyone does one thing. Everybody's producing different work, and everyone is producing work from their own lived and life experience. And I think it's really important that everybody's voices are heard. I suppose to answer your question in a long-winded way, you know, having opportunities like this allows, I think, others to see that there are more, you know, more than just, you know, one brand of Indigenous art coming from Australia.
Dot painting is not unique to Central Australia. Just that would be a misnomer saying it belongs specifically to that place, because people travel as well. There are relationships and marriages, and people travel around the country. If someone is from the area and then they travel and set up a family on another, you know, on the other side of the world, they'll take their art with them. And it will be borrowed and adapted to. So
there's. And I think it's interpretation as well. It's like, you know, we live in a modern, you know, we live in a modern world. And everything is evolving. Everything is influenced by, you know, whether you like it or not, everything that you see, you hear, you touch, you taste is influencing your work. You know, we still have, as, you know, proud Aboriginal people, our roots and our ties to who we always were, and our care for our community and our country. But we can also add flavour of all of the new and amazing contemporary things that are coming at us to create. You know, there's, well, I follow obviously quite a lot of artists, but there's an amazing artist at the moment who's doing these ceramic figurines, Billy Bain, who I love. You know, that is definitely not anywhere close to traditional Aboriginal art, but at the same time it is. It's his flavour. He's telling our stories from a contemporary lens, but he's doing it in a way that's super modern. You look at, you know, Arch Moore, who just took out for the first time in 120 years, Australia won the gold, so the big award at the Venice Biennale only last week. And the person who won it, the artist who won it, is a black fella. He's Aboriginal. His work is definitely not traditional. You know, he did a hand-drawn version of a of an ancestry map of a family tree for his Aboriginality, and then on the floor are these printed out like horrendous documents of from all of the Senate inquiries into Aboriginal deaths in custody. Like these, that's cutting edge stuff. But he's still using his lived experience and his Aboriginal culture to inform a really modern and contemporary practice. And that's, you know, I would hope one day I could be as good as those guys. But, you know, that's what excites me, is people telling these stories that need to be told about an Aboriginal culture and community that hasn't had a voice or a strong voice for a very long time in this country and globally, but doing it in a way that's like so kick-ass and modern and cool and exciting.
Yeah. What message or story do you hope people take away after experiencing your bench design at Technogym?
I hope that they realise that, you know, that that contemporary Aboriginal work is a really interesting and new emerging part of our Australian art scene, and that it causes them to go and have a Google. Go and have a Google and see who else is doing these sorts of amazing contemporary Aboriginal art. That's really key for me. I think that the broader the voices that we have, you know, internationally, the better off we are at home. It sounds really silly, but sometimes it can be not tall poppy syndrome, but you can feel like you don't really make it as well at home until you've had success overseas. Till, you know, an overseas market has said you're amazing. And then you come home and, you know, you sell out exhibitions off the back of being excellent somewhere else.
Yeah.
So yeah, it's a bit of a strange one, and I hope that there's like a big fishing net, that it's, you know, just part of that big fishing net. The more of us out there collecting fans and interest and engaging in these really wonderful conversations with people through our art, that we're grabbing them in our fishing net and bringing them back to Australia to say, hey, check us all out.
Yeah. And is Milan the final stop for this piece, or I kind of heard that you're taking it to Paris as well?
I only heard the other day that the benches are all obviously at the Salon in Milan, and then they're all going over to Paris for the Olympics. So I'm represented in Paris by a wonderful gallery called Arts d'Australie, which, you know, the Australian artist, which is run by a lovely guy called Stefan, and he's going to host an exhibition with, I think, a lot of the Olympic athletes coming through to see all of those works during the Olympics in Paris.
Wow, that's exciting.
I know, pretty cool, huh?
No, so you've got, no, it's not only Europe, Milan, or Western Europe, it's the entire world. You've got the whole world there to really experience this kind of art that's unique. Wow.
Yeah, which is like such an opportunity. You know, it's also, you know, at my home gallery in Paris. So there, you know, I'm making sure that there's a whole bunch of work that's there that speaks to the same sort of design work and story as the bench. So Stefan will have like a bunch of pieces that are there. So it's a really, like, for me, what a wonderful opportunity. But it's been such a great opportunity, and they've been so lovely to work with. It's sort of been a bit like a dream come true.
Before I let you go, anything else you'd like to add to the conversation?
You know, sometimes people, particularly with Aboriginal artists, it can be quite difficult to find the right tension between working sometimes with a brand and still keeping your story true to your culture, but also to what your own voice, what you want to say. And what I would say is, for me, this collaboration has been probably one of the most sincere and genuine. The guys were absolutely supportive of everything that I put forward. I put forward a whole bunch of ideas of what I wanted to do, and they greenlit all of them.
Yeah.
So I felt really safe. I felt really culturally safe, but I also felt, from an artistic perspective, really held in the process, that I really could I really could produce what I wanted to produce and say what I wanted to say, and I without any censorship or changes, which was really, you know, that's quite a unique experience when you work with brands.
Kate, thank you very much for taking the time to talk to us on NITV Radio today, and congratulations again on participating in such a prestigious exhibition and you know, putting Indigenous art on a global platform.
Thank you so much for having me.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur SBS French. On retrouve à présent Jean-Noël Ducasse en conversation avec Céline Vino, une jeune athlète sélectionnée pour représenter l'Australie aux Paralympiques de Paris.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir sur les ondes de Radio SBS Céline Vino, qui va nous parler de sa sélection au sein de l'équipe australienne de badminton pour les JO Paralympiques de Paris. Bonjour et bienvenue, Céline.
Bonjour.
Céline, peut-être d'abord, pour nos auditeurs qui nous écoutent, racontez-nous votre parcours comme joueuse de badminton pour arriver au sein de l'équipe nationale australienne. Et vous êtes franco-australienne, j'imagine.
Oui, je suis franco-australienne. Alors, j'ai commencé à jouer en 2015. Oui. J'avais fini l'école et j'essayais de trouver un sport où je pouvais accéder en transport en commun à Melbourne. Et j'ai tombé sur le badminton. Ils ont commencé à jouer au para-badminton au centre de sport Albert Park, ici à Melbourne. Et j'ai commencé, j'ai jamais arrêté.
Très bien. Et qu'est-ce qui vous a poussé à pratiquer ce sport?
C'est un sport individuel. Alors, je trouvais ça un peu plus facile, surtout avec un handicap. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports où c'est très, très facile de jouer en sport d'équipe avec le niveau d'handicap que j'ai.
Oui.
Alors, j'ai trouvé le sport individuel un peu plus simple. Et j'ai assez bien coordonné pour jouer au badminton.
Et vous avez... Vous êtes, je crois toujours, lauréate d'une bourse du Victorian Institute of Sport. Comment tout cela vous aide?
Alors, je suis toujours sur une bourse au VAS. Ils aident avec la préparation physique et mentale pour toutes les compétitions. En fait, c'est super d'avoir plein d'athlètes dans le même centre qui s'entraînent et de viser la même chose pour ou les Olympiques ou les Paralympiques pour la préparation.
D'accord. Et peut-être parlez-nous de votre programme sportif concernant les entraînements pour les JO qui arrivent assez rapidement.
Ouais, ça vient assez rapidement. Alors là, pour l'instant, je travaille toujours, mais je finis mon boulot à la fin du mois. Et je vais commencer à m'entraîner 6 fois par semaine. Ou entraînement de terrain, ou dans la gym, à faire la préparation physique.
Et donc, vous mariez un travail à plein temps, et en même temps, vous pratiquez ce sport?
Pour l'instant, ça a été le cas, mais je vais prendre 2 mois de, je dirais vacances, mais c'est pas vraiment des vacances parce que c'est
congé sabbatique.
Ouais, congé sabbatique pour l'entraînement avant les JO.
Et il y a combien de membres au sein de l'équipe?
Nous sommes 2 dans l'équipe de badminton pour l'Australie, mais dans toute l'équipe australienne, au moins 200. Je suis pas entièrement sûr du nombre final.
Et combien vont faire le déplacement sur Paris?
En termes de coach et d'athlètes, ça serait 400, 500, quelque chose comme ça. Je suis pas entièrement sûr. Tous les sports sont différents.
Et juste avant les JO, je crois comprendre que vous serez en Écosse pour un tournoi. C'est à partir du 16 juin. Alors, peut-être un petit mot sur ce rendez-vous?
Oui, alors là, la semaine prochaine, je pars pour l'Écosse pour jouer un tournoi où ils prennent que les premiers 12 joueurs mondiaux. Alors, c'est pas des matchs très, très faciles. Mais, enfin, il n'y a jamais de match très facile. Mais c'est la dernière compète avant les Paralympiques.
Et donc, vous êtes dans le top 12 des joueuses.
Oui, là, je suis 8e dans le classement mondial.
Bravo. Et ensuite, cap sur Paris, on imagine.
Oui, alors, ensuite, en rentrant de l'Écosse, on a des stages de prépa à Adelaide et à Sydney. Ensuite, nous prenons l'avion pour Paris le 21 août.
Très bien. Et quelles sont un petit peu vos attentes pour l'équipe australienne?
Ça dépend vraiment des sports. Alors, l'équipe australienne est très bonne en piscine et en athlétisme. Le badminton, on ne sait pas encore, parce que c'est que la deuxième fois que ça a été dans les Paralympiques. Ça a fait son début à Tokyo en 2021. Et on avait deux joueurs qui ont joué la dernière fois. Et nous sommes deux cette fois-ci aussi. Mais on n'est pas trop sûr de comment ça va se passer.
Peut-être cette question, le badminton en Australie, grosso modo, est-ce que les Australiens s'adonnent à ce sport?
C'est pas un sport national. En étant australien, c'est le footy australien ou c'est la piscine, l'athlétisme et
ou le tennis.
Ou le tennis. Et on joue contre les Asiatiques ou les Européens qui, c'est leur sport national. Alors c'est très très compliqué, mais on fait ce qu'on peut.
Et il y a beaucoup de clubs locaux autour de Melbourne, autour de l'Australie?
Oui, il y en a plein. Tous les centres de sport, ils ont des terrains. Alors c'est assez facile de trouver des gens avec qui jouer.
Et au-delà des JO Paralympiques, Céline, quels sont un petit peu vos projets personnels?
Mon projet personnel, c'est de jouer le mieux que je peux et j'espère de pouvoir gagner un match parce que je pense que je peux. Mais vraiment, c'est la première fois que je vais aux JO et la dernière fois, les JO, c'était pendant le Covid. Alors, ça va être très différent. Mais s'amuser, prendre toutes les opportunités qui se présentent et de jouer le mieux que je peux.
Et en dehors du badminton, vous avez d'autres passe-temps?
En dehors du badminton, je chante dans une chorale depuis, je sais pas, 20 ans, juste comme ça, et je travaille.
Quel est le message que vous auriez pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils regardent ce tournoi de badminton qui sera diffusé en direct à la télé?
On espère que c'est diffusé en direct. Prenez les opportunités que vous pouvez. Le parasport, ou le handisport en français, c'est très différent des Olympiques. Et c'est impressionnant de voir les gens avec des handicaps qui peuvent jouer le sport au même niveau que les Olympiques et voir que tout est possible.
Et donc, pour rappel, les JO Paralympiques, c'est à partir du 21 août à Paris?
Non, c'est à partir du 28 août.
D'accord, mais vous serez sur place bien avant, c'est ça?
Oui, nous serons sur place bien avant. Nous arrivons le 22 et nous repartons le 9 septembre. Mais la compète de Parabadminton commence le 29 août et finit le 2 septembre.
Donc, à retenir ces dates, le 29 août au 2 septembre. Et peut-être cette question que j'ai oublié de poser, est-ce qu'on peut jouer en double dans les tournois de badminton?
Oui, alors il y a trois disciplines, ou dans valide, mais dans le para aussi.
Oui.
Alors, il y a le simple dame, simple homme. Le double dame, le double homme et le mixte.
Merci beaucoup Céline et bon courage pour les JO.
Merci. Allez.
À bientôt.
Bonne fin de journée.
Au revoir.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Thank you.
nous touchons à la fin de cette édition du dimanche 16 juin. Prochain rendez-vous avec le français, mardi prochain, entre 13 et 14 heures. Je vous remercie de votre compagnie ce dimanche après-midi. Je vous souhaite un bel après-midi et à très bientôt.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.